Et nous voici comme chaque premier mardi du mois en compagnie des libraires montalbanais pour l'émission Les Voix de l'Alma. Autour de la table, Hugues Dedi. Bonjour Hugues.
Bonjour.
Pour la librairie.
Pour la librairie jeunesse, puis en même temps je suis interlibrairie.
Alors, interlibrairie, ça marche. Bonjour Philippe Bernadeau.
Bonjour, librairie de Loche, 21 rue de la République.
Ça va bien ?
Toujours, ça va très bien, merci.
Merci d'être là. Et Jacques Griffaut, en représentant de...
Bonjour, je représente donc la femme renard, puisque les renardes sont restées dans leur terrier.
Alors, merci d'être là et de nous parler de l'auteur du mois, Hugues Dedi.
Oui, l'auteur du mois, c'est Flannery O'Connor. Alors, nous sommes en 1964, à 39 ans, Flannery O'Connor décède prématurément. Le lupus dont elle souffre, qui a jadis emporté son père, a raison de ses dernières forces. Depuis 20 ans, cette maladie invalidante l'assigne à résidence dans la ferme familiale d'un petit village de Georgie, où, entouré d'une improbable basse-cour, poule unijambiste, cygne borgne, colonie de paons, avec patience, elle écrit. Elle écrit le sud dont elle ne partira jamais, ou si peu, le sud source d'inspiration et toile de fond de toute son œuvre. Caricaturiste aux traits acérés, elle croque avec gourmandise et cruauté ce monde rural des années 50, les noirs, les petits propriétaires blancs, racistes et triqués, cramponnés à des privilèges d'un autre temps. Elle écrit le sud et décrit cette autre réalité qui s'immisce entre les faits, la face cachée des choses. Flannery est un écrivain qui revendique clairement sa foi catholique. Elle dit « Écrire pour un chrétien pose ce redoutable problème, l'unique, l'ultime réalité qui existe pour vous, c'est l'incarnation. Et personne ne croit en l'incarnation, en tout cas dans le grand public. Alors, pour susciter l'intérêt de ce grand public, elle choisit l'électrochoc. Les personnages qu'elle invente sont donc grotesques, primaires, parodiques. Elle les affuble des plus horribles disgrâces physiques ou morales, voire les deux. Tour à tour, elle met en scène des aveugles, des manchots, des boiteux et autres accidentés de la vie, des enfants martyrs, des vieillards séniles, des tueurs en série, des mystiques prédisant l'apocalypse, des maîtres d'école bornés, de pathétiques dames patronesses, des prédicateurs, tous évoluant dans un univers absurde et violent où ils pataugent, se noient, s'entretuent, se cognent, tous s'accrochant à leur pauvre conception manichéenne d'un monde qui inexorablement se détruit. Et Flannery éclate de rire derrière ses lunettes qui lui donnent un air de vieille fille rance. Elle ironise de la bêtise, des certitudes trop vite acquises, des préjugés, de la pensée unique, partiale et imbécile. Et Flannery ajoute avec cette bouche tordue et ses lèvres gonflées par la cortisone « À mon avis, les écrivains qui voient le monde à la lumière de leur foi chrétienne seront ceux qui auront les meilleurs yeux pour saisir le grotesque, le pervers et l'inacceptable. » Et Flannery se gausse enfin de ses faiblesses, de son corps cramponné à ses béquilles d'aluminium, de cet ectoplasme qu'elle est devenue sous la fureur destructrice du lupus. Elle rit à gorge déployée des 2 heures de travail que lui accorde la maladie, qui, de son propre aveu, sont très laborieuses. Et c'est peu dire, elle met respectivement 5 et 7 ans pour terminer ses 2 premiers romans. Et parallèlement, elle écrit des nouvelles pour se dégourdir la tête, dit-elle, se divertir. Mais rien n'est simple avec le lupus, elle peine, elle souffre, et elle dit toujours avec ce double langage, la maladie avant la mort me paraît tout à fait recommandée, et je pense que ceux qui l'ignorent sont privés d'une des grâces de Dieu. Et donc Flannery O'Connor, pour la lire, c'est une véritable épreuve pour certains, tant son œuvre est cruelle. Mais pour d'autres, c'est une illumination, une grâce unique. Alors pour la découvrir, je vous propose 3 titres. « Les braves gens ne courent pas les rues » aux éditions Folio, qui regroupe 10 de ses nouvelles. « La sagesse dans le sang » aux éditions Gallimard, c'est son premier roman, un roman truculent qui met en scène un jeune homme résolu à devenir comme son grand-père un prédicateur et qui tente de créer une secte, une nouvelle secte, l'Église sans Christ. Et si vous aimez, vous avez ses œuvres complètes, donc romans, nouvelles, essais et toute sa correspondance aux éditions Gallimard Collection Quarto.
Flannery O'Connor, merci Hugues Dedi. Le premier coup de cœur des libraires nous est offert par Philippe Bernadou. Il s'agit de
La plume de l'ours de Carole Alamand. C'est un premier roman et, suivant la formule pour un coup d'essai, c'est un coup de maître. Imaginez que le XXe siècle ait donné à la Suisse un écrivain majeur, incontestable, en un mot national. D'ailleurs, on doit mettre son effigie sur les billets de 500 francs suisses. peut-il y avoir dans ce pays de plus haute consécration, à part peut-être des billets de mille s'ils existent. Rien ne laissait penser pourtant que Camille Duval, qui s'était fait remarquer dans les années 40 par des romans à succès dont la qualité littéraire en était pas la première vertu, rien ne laissait penser qu'après un exil définitif aux États-Unis et 12 ans de silence, il livrerait 4 romans d'une haute exigence publiés aux éditions de Minuit, c'est pour dire, qui l'amènerait jusqu'au Goncourt et à la reconnaissance des sommités intellectuelles et universitaires. Que s'est-il donc passé pendant ces 12 ans qui ait pu causer ce que les exégètes appellent la rupture duvalienne? C'est ce que va tenter de comprendre une jeune chercheuse, Carole Courvoisier, en partant sur ses traces aux États-Unis. Il y a au moins 3 choses dans ce roman. D'abord, le plaisir d'une machinerie intellectuelle enthousiasmante, l'invention de la biographie crédible de Camille Duval, étayée par des rencontres avec le vrai monde, Nabokov, Marguerite Yourcenar, entre autres. Ensuite, un portrait des milieux universitaires qui est digne de David Lodge, en Suisse, aussi bien que dans les divers établissements des USA, où Carole, la chercheuse, est amenée à enseigner. Enfin, et c'est l'apothéose, un hommage à la littérature américaine des grands espaces et de la sauvagerie. Dans ce cas, c'est une île de l'Alaska où l'écrivain a établi sa dernière demeure et où Carole fera la connaissance d'un sauveteur d'animaux blessés et d'une femelle grizzly, aussi affamée de sucreries que de littérature. On l'aura compris, c'est à la fois intelligent, passionnant et amusant. Et si je devais donner des étoiles à mes coups de cœur, je n'hésiterais pas à lui en décerner 4. La plume de l'ours de Carole Alamand s'est publiée chez Stock dans la collection La Forêt, animée par Brigitte Giraud.
Merci Philippe Bernadou. Jacques Griffaut, Une fille qui danse, c'est le titre de votre coup de cœur.
Oui, Une fille qui danse, c'est un livre de l'anglais Julian Barnes. C'est un livre qui est encensé, qui est porté au nu par la critique. En Angleterre, il a obtenu le prestigieux prix Man Booker Prize. C'est un prix qui récompense un auteur du Commonwealth et d'Irlande. En France, pas une fausse note. Alors moi je trouve ça un peu exaspérant tel consensus, parce que même lors de l'émission La Dispute d'Arnaud Laporte sur France Culture, les chroniqueurs n'ont pas trouvé moyen de se disputer. Tous d'accord, un grand roman, et beaucoup ajoutent, comme on n'en a pas lu depuis longtemps. Je me suis donc jeté sur ce bouquin, d'autant que j'aime bien Julian Barnes, que je lis régulièrement depuis son fameux Perroquet de Flaubert. Et moi aussi j'ai éprouvé un vif plaisir de lecture de ce roman, que j'ai trouvé subtil, fin, virtuose, irrésistible. Tout comme Madame Bovary, qui après tout n'était qu'une simple histoire d'adultère en province, l'intrigue semble simple. Dans les années 60 en Angleterre, 4 copains d'université ambitieux, brillants, impatients d'être lâchés dans la vraie vie, cherchant chez les écrivains et les philosophes un sens à la vie, ils sont là et ils vont rencontrer Véronica, qui elle est une jeune fille qui étudie l'espagnol, qui aime la poésie. Tony le narrateur s'éprend d'elle, mais elle lui préférera très vite Adrien, très intelligent, un rien ombrageux. Tony part ensuite, la vie les sépare, puisque chacun poursuit un peu son cursus, et Tony va aux États-Unis. En venant des États-Unis, quelques temps après, il apprendra qu'Adrien s'est suicidé. Il avait 22 ans. Là où les choses se compliquent, et c'est la seconde partie du livre, c'est 40 ans plus tard. Alors que Tony, qui est retraité, divorcé, mène une vie terne et tranquille, une lettre inattendue, émanant d'un cabinet d'avocats, va faire basculer l'intrigue et ressurgir le passé. Bien évidemment, je ne vais pas vous en dire plus. Mais Tony est le seul narrateur de ce livre et il nous embarque dans un long voyage dans la mémoire, cette tentative pour comprendre le passé. Aucun autre témoin n'est appelé. Le lecteur ne dispose donc que du seul point de vue de Tony qui s'efforce de livrer un récit objectif de sa remémoration. Mais peut-on se fier à sa mémoire? Ce roman, comme tous ceux de Julian Barnes, traite de l'usure du temps, de la mémoire, de ses imperfections, de ses failles, de ses défaillances. Le récit que Tony s'était construit du passé et va bientôt se fissurer, se briser. La construction du roman est très subtile, le suspense psychologique alterne avec des réflexions tout à fait passionnantes sur le sens de la vie. Avec des scènes inoubliables et souvent très drôles, mais pas drôles, on sait pas, un gros rire un peu gras, c'est un rire, c'est un sourire beaucoup plus subtil, c'est vraiment de l'humour anglais. Les cours d'histoire à l'université du professeur Joe Hunt, la réception de Tony chez les parents de Véronica, sont des scènes absolument inoubliables, tout comme le mascaret de Séverne la nuit. Qu'est-ce que c'est que le mascaret? Ben, le mascaret, c'est cette vague qui remonte un fleuve à contre-courant. Et, comme il le dit, là, le cours naturel des choses était inversé et le temps avec lui. C'est un plaisir de lecture constant, je vous recommande vivement.
Merci Jacques. Hugues Dedy, un coup de cœur jeunesse.
Oui, un roman jeunesse, Plus jamais sans elle, de Michael Olivier. Alors, Alan va bientôt fêter ses 18 ans avec son père. Et de sa mère, il ne sait absolument rien, sinon qu'elle est partie juste après sa naissance. Alors, quand son père lui demande quel cadeau lui ferait le plus plaisir pour son anniversaire, Alan n'hésite pas un instant, il répond qu'il veut faire connaissance avec sa mère. Alors, le jour de sa majorité, le jour de son anniversaire, le jeune homme reçoit de son père une enveloppe contenant l'adresse, une adresse à Londres, et un billet pour Londres. Et voilà, il va partir dans la capitale anglaise et faire connaissance, enfin, avec cette femme qu'il pourra appeler maman. Mais la rencontre avec maman est quand même très étrange, et elle est très... Enfin, c'est une rencontre qu'il n'avait pas du tout imaginé, puisque cette rencontre l'entraîne à travers l'Europe dans une valse d'intrigues mystérieuses où il est sans cesse confronté à la mort. Course-poursuite, Kalachnikov, ce ne sont pas vraiment les éléments qui rythment habituellement sa vie, mais Alan est prêt à tout, même à risquer sa peau pour rester auprès de sa mère qu'il ne veut quitter pour rien au monde. Alors, c'est un roman pour les jeunes à partir de 14 ans qui propose une double aventure. Celle totalement furieuse, déchaînée d'un thriller façon cinéma de genre, et celle beaucoup plus intimiste de la découverte de soi et de ses proches. L'auteur parvient à construire une tension permanente entre le récit épique et le récit intime, le spectacle et l'introspection, le chaos des situations et la confusion des sentiments, avec une fluidité magistrale qui emporte véritablement le lecteur. Donc finalement, dans ce roman palpitant, les battements du cœur résonnent aussi fort que les détonations des armes à feu. Donc ça s'appelle « Plus jamais sans elle », c'est écrit par Michael Olivier, c'est disponible aux éditions Seuil Jeunesse.
Merci Hugues Dody. Autre coup de cœur, Philippe Bernadou.
Oui, « Le prisonnier du ciel », et c'est une très bonne nouvelle pour les orphelins de l'ombre du vent, tous ceux que ce livre avait enchantés et qui avaient déchanté à la lecture des traductions qui ont suivi. Souvent des livres dits pour adolescents, bien antérieurs d'ailleurs à son chef-d'œuvre. Revoilà donc Carlos Ruiz Zafón au mieux de sa forme. Bien sûr, ce ne sera jamais plus l'enchantement de l'ombre du vent, qui était aussi celui de la découverte, mais ne boudons pas notre plaisir, le prisonnier du ciel a toutes les qualités d'un excellent livre. Nous retrouvons la famille des libraires d'anciens, de bouquinistes donc, barcelonais, Daniel Samper et son père, 10 ans après L'Ombre du Vent, en 1957 précisément. Ce livre-ci tourne autour du personnage de Fermín Romero de Torres, clochard métaphysique que Daniel avait repêché sous les arcades de la Plaza Real. Nous saurons tout de son évasion rocambolesque de la citadelle de Montjuïc et du secret qu'il détient au sujet de la mort de la mère de Daniel. En plus de la vigueur romanesque de ce roman, de sa filiation avouée avec le Dumas du Comte de Monte Cristo, on retrouve les bonheurs d'écriture de Carlos Ruiz Zafón, sa façon toujours renouvelée dont il s'est parlé de Barcelone, plus particulièrement, et cela peut être une surprise pour qui ne connaît pas ce port, l'humidité qui imprègne Barcelone, les brumes du petit matin et les pavés mouillés de la nuit. Ceci traduit admirablement par François Maspero toujours. N'hésitez pas à vous réconcilier avec Carlos Ruiz Zafón, Le prisonnier du ciel, chez Robert Laffont.
Un dernier coup de cœur, s'il vous plaît, Jacques Griffaut.
Oui, alors cette fois-ci, c'est « Dans l'ombre de la lumière », c'est écrit par Claude Pujade-Renaud chez ses Actes Sud. Claude Pujade-Renaud, c'est une nouvelliste, aussi une romancière. Nouvelliste, elle est invitée à Place aux Nouvelles. Et qu'est-ce qu'elle fait? Elle excelle dans ses romans à s'emparer de personnages historiques peu connus et à leur donner une existence, à mettre en quelque sorte de la chair et de l'âme sur le squelette que nous a laissé l'histoire. Cette fois-ci, elle va s'emparer d'Elissa. Elissa, elle fut la concubine de Saint-Augustin. Alors Saint-Augustin, ses dates, c'est 354-430, donc on est en plein 5e siècle. Elle vécut dans son ombre, elle eut un enfant de lui, un fils qui s'est appelé Adéodatus, et elle a connu la disgrâce. Elissa est la seule narratrice de ce roman. Elle nous raconte sa rencontre avec Augustinus, lorsqu'elle a 15 ans, sa vie passionnée avec lui à Carthage. Alors Carthage, vous savez, c'est au nord-est de Tunis. À Tagaste, Tagaste c'est en Algérie maintenant. Et puis en Italie, où Augustinus, qui possédait une formidable érudition, donne des cours de rhétorique. Et là, il est manichéen, en quelque sorte. C'est-à-dire, je vous en parlerai dans un instant. Il est manichéen, c'est-à-dire que c'est une hérésie qui prône le bien et le mal comme principe fondateur du monde. Et il se convertira, en fait, au catholicisme. Il deviendra l'évêque d'Hippone. D'Hippone, c'est maintenant Annaba, en Algérie. Donc, il est en Italie et il va répudier ensuite Elissa, sans doute sous l'influence de sa mère, l'imposante Monica, la si parfaite catholique, qui estime que son fils ne doit pas vivre avec une femme qui est d'une condition beaucoup plus basse que lui. Cette histoire de grâce et de disgrâce, elle baigne dans la lumière de Carthage et d'Italie, avec la lumière en toile de fond. La nature en toile de fond qui est très présente, la mer bien sûr, mais aussi les oliviers, les cyprès, et sont présentes aussi les choses de la vie quotidienne, les repas, le travail de l'argile, les odeurs, et tout ça est écrit avec l'écriture précise, très visuelle et surtout très très sensuelle de Claude Pujade-Renaud qui nous embarque dans ce long voyage aux côtés d'Elissa.
Donc ça s'appelle
Dans l'ombre de la lumière de Claude Pujade-Renaud. Vous avez compris que c'était l'ombre de la lumière, c'est Saint-Augustin, donc effectivement.
Merci Jacques Griffaut. On arrive à la mi-temps de cette émission Les Voix de l'Alma, que vous retrouvez tous les premiers mardis du mois sur CFM Radio et également au podcast après sur cfmradio.fr. Et puis tous les livres qui seront présentés par les libraires, c'est sur le site internet des libraires, librairiemontauban@.fr. Une lecture, s'il vous plaît, Philippe Bernadou.
Une lettre de Hannah Arendt, la grande philosophe allemande naturalisée américaine, qui est envoyée de New York en 1941 et qui parle des derniers jours de Walter Benjamin, autre grand philosophe allemand mort en Espagne. En septembre, nous nous sommes retrouvés à Marseille, nos visas étant arrivés entre-temps. Benji, c'est le surnom de Walter Benjamin, Benji y était déjà depuis le mois d'août, ayant déjà reçu son visa au milieu de ce mois. Il disposait aussi déjà à l'époque du fameux visa de transit espagnol et du portugais, bien entendu. Le visa espagnol était encore valable 8 ou 10 jours lorsque je l'ai revu. Il était à l'époque absolument hors de question d'obtenir un visa de sortie. Il me demanda, désespéré, ce qu'il devait faire et si nous ne pouvions pas obtenir les visas espagnols assez vite pour pouvoir franchir la frontière tous ensemble. Je lui ai dit et démontré que nous n'avions aucune chance d'y parvenir et que par ailleurs il fallait qu'il parte car les visas espagnols n'étaient plus prolongés à l'époque. Je lui ai dit d'autre part que j'avais les plus grands doutes sur le point de savoir combien de temps ces visas existeraient encore et que l'on ne pouvait tout de même pas courir le risque de les laisser expirer. Que bien évidemment nous préférerions partir à Troyes, qu'il pourrait ensuite venir chez nous à Montauban, je souligne, chez nous à Montauban, mais que personne ne pouvait en prendre la responsabilité. Sur ce, il décida, dans une certaine hâte, de partir. Vous saurez sans doute tout le reste. Il dut partir avec de parfaits inconnus. Ils choisirent le plus long chemin, qui représentait une marche à pied d'environ 7 heures dans les montagnes. Ils détruisirent, pour des motifs parfaitement insondables, leur titre de séjour français, certains disant, s'interdisant ainsi tout retour en France. Puis ils arrivèrent tout juste 24 heures après la fermeture de la frontière espagnole aux personnes ne disposant pas de passeports nationaux. Nous n'avions plus, tout autant que nous étions, que les papiers du consulat américain. Benji, sur le chemin, s'était déjà effondré à plusieurs reprises. Il devait être arrêté le lendemain à la frontière espagnole et il mit fin à ses jours au cours de la nuit de sursis qu'on leur avait accordé. Lorsque nous sommes arrivés à Portbou, des mois plus tard, nous avons vainement cherché sa tombe. Elle était introuvable. On ne voyait son nom nulle part. Le cimetière donne sur une petite baie directement sur la Méditerranée. Il est taillé dans des terrasses de pierre. C'est dans ces murs de pierre que l'on glisse les cercueils. C'est, de loin, l'un des endroits les plus fantastiques et les plus beaux que j'ai vus de toute ma vie. Lettre de Hannah Arendt à Gershom Scholem, publiée au Seuil.
Merci Philippe Bernadou. L'actualité des libraires montalbanais, c'est surtout l'actualité de la librairie La Femme Renard, Faubourg La Capelle, Jacques Griffaut.
Oui, absolument. Alors vous pouvez, juste après avoir écouté cette émission, vous pouvez vous précipiter à La Femme Renard, puisqu'il y a en ce moment le vernissage de l'exposition des œuvres de Jacques Tison. C'est une exposition qui durera jusqu'au 2 mars 2013. Jeudi prochain, donc 7 février, à 20h30 à la salle des fêtes de Corbarieux, il y a un spectacle de contes d'Ahmed Bouzine, qui s'appelle « Fragments d'épopée Touareg ». Et ça, c'est dans le cadre du festival « Alors raconte », qui est organisé par les amis de la médiathèque départementale. La Femme Renard y sera et vous proposera des recueils de contes. Le mardi 12 février, Toute la journée au centre universitaire du Tarn-et-Garonne, il y a une journée d'études sur la bande dessinée, les formes et usages, de 8h30 jusqu'à 17h. Vous êtes cordialement invités à venir retrouver les participants à les tables rondes à 16h15. Et puis ensuite, vous filez à la Femme Renard, donc toujours ce mardi 12 février à 19h, il y a une rencontre dédicace avec Jérôme Piau, qui est scénariste, à l'occasion de la sortie de sa bande dessinée « Frères d'ombre », qu'il vient de publier avec Sébastien Vassant aux éditions Futuropolis. On saute une semaine.
Pour l'occasion, ce jour-là, nous le recevrons aussi sur CFM pour qu'il vienne présenter sa BD.
Bon, très bien. On saute une semaine, on souffle un peu, et à 18h30, à la Femme Renard, le mardi 19 février, il y a une rencontre dédicace avec Annick de Mouzon, qui a été invitée l'année dernière à Place aux Nouvelles. Le lendemain, le 20 février, de 17h30 à 18h30, à la Femme Renard, c'est la lecture mensuelle de la Compagnie des écrivains du Tarn-et-Garonne, et là, Jean Casal présentera Victor Hugo poète et lira des poèmes de Victor Hugo. Le 21 février, à la Femme Renard, rencontre cette fois-ci avec des auteurs jeunesse. C'est 17h30 à 19h30. Les auteurs jeunesse sont Hélène Montardre et Alice de Pongeville. C'est autour d'une thématique, livre jeunesse et texte fondateur, le conte, le mythe. C'est un premier rendez-vous, ça, avec des causeries d'auteurs jeunesse qui est organisé à la Femme Renard par l'association Réelle en avant-première du fameux salon du livre jeunesse de Montauban. Voilà.
Merci Jacques Griffeau. On arrive au terme de cette émission. Je vous propose de refaire un tour de table pour nous présenter les ouvrages que vous nous avez proposés aujourd'hui. Philippe ?
Alors, deux coups de cœur. Un premier roman, Carole Alamand, La plume de l'ours, chez Stock. De Carlos Ruiz Zafón, Le prisonnier du ciel, chez Robert Laffont. Et la lecture, c'était une lettre de Anna Arendt à Gershom Scholem, publiée au Seuil.
Hugues Denis.
Alors moi je vous ai présenté toute l'œuvre de Flannery O'Connor. Vous avez une intégrale qui est disponible aux éditions Gallimard, collection Quarto. Et puis je vous ai parlé également de Plus jamais sans elle, un roman jeunesse de Michael Olivier, disponible au Seuil Jeunesse.
Jacques.
De Julien Barnes, Une fille qui danse, c'est un livre qui est publié au Mercure de France. Et ensuite, je vous ai présenté « Dans l'ombre de la lumière » de Claude Pujade-Renaud, qui est publié aux éditions Actes Sud.
Merci messieurs, c'était les Voix de l'Alma. On se donne rendez-vous dans un mois, le premier mardi du mois à 18h, pour une nouvelle édition. Si vous avez raté tout ou partie de cette émission, vous pouvez la podcaster sur cfmradio.fr et en savoir plus sur les libraires montalbanais sur librairiemontauban au pluriel.fr. Salut.
À bientôt.
Au mois prochain.
Au revoir.